Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Estival du local, votre quotidienne cet été à suivre sur l'autre radio du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, on est le jeudi 25 août et on va parler d'une belle initiative qu'on avait déjà évoquée en tout cas dans l'AJT du local il y a quelques mois. Mais ici, on a affaire à des pionniers, attention. Un grand programme de plantation d'arbres et de haies sur une exploitation agricole. Si les projets de ce genre se multiplient depuis quelques années, il est mené à la ferme de Peton depuis 1990. L'occasion de prendre un peu de recul sur les engagements et avantages de l'agroforesterie avec les propriétaires des lieux.
Dominique Bordeaux, agriculteur à Peton, au GA, depuis 32 ans.
Claire Bordeaux, je suis installée à la ferme de Peton depuis 3 ans et donc je fais du maraîchage, je propose des cours de yoga et j'accueille et j'anime des stages à la ferme.
Bonjour, Pierre Combordeau, installé également depuis 3 ans, moi sur les activités maraîchage et accueil de groupe également.
Donc ça a été la reprise de l'exploitation familiale, puis la poursuite de l'activité laitière à cette époque, puisque mes parents produisaient du lait à cette époque. J'avais 35 hectares à cette époque et puis 30 laitières à cette époque, il y a 30 ans. On est passé dans les années 2010 à une agriculture biologique. Et puis, surtout avant 2010, on s'est lancé dans la plantation d'arbres dès 1990. Alors le déclic, c'est 1976, une année de sécheresse, mais aussi surtout le remembrement en 1976, échange amiable entre les agriculteurs et donc la destruction de beaucoup de linéaires de haies sur la commune. Donc on s'est lancé dans la plantation d'arbres dès 1990. Et aujourd'hui, on va arriver à peu près à 10 000 arbres de plantés cette année, puisqu'on comptait du planter encore. Alors, au début, on a démarré des petits linéaires de 200 mètres les premières années pour se faire la main. Et puis après, on a demandé du soutien avec des équipes, surtout en chantier d'insertion, pour partir souvent sur des linéaires de 1000 mètres par an pour avancer assez rapidement dans l'acte de planter. En fait, on introduit toutes les essences qu'on retrouve dans nos campagnes. C'est à peu près 10 essences différentes. Et aujourd'hui, on introduit même des nouvelles essences avec le changement climatique qu'on n'avait pas il y a 30 ans, des essences plus rustiques. Et on a aussi supprimé certaines essences comme le chêne pédonculé qui est moins résistant au choc des températures. Et bien, on a de l'érable champêtre, érable sycomore, du prunier, du noyer, du châtaignier, du merisier, du chêne rouve, du chêne cécile. On a redécoupé les parcelles avec des arbres de façon à retenir le maximum d'eau dans les parcelles et favoriser le maximum d'ombrage aussi dans les parcelles. Ces plantées sont sur un rythme de prélèvement pour produire du bois énergie tous les 15 ans. On a des haies qui ont été prélevées deux fois. On lui donne plus facilement aujourd'hui un statut de trogne. On vient les recéper, les recouper. Sa souche est âgée, mais sa ramure peut être très jeune. Et donc sur l'exploitation, on a retrouvé des trognes qui ont plus de 500 ans et qui sont en pleine forme. Déjà des pratiques que faisaient nos parents et grands-parents. Ça a été un petit peu abandonné dès que le fioul est arrivé, où on prélevait moins l'arbre. Et aujourd'hui, on cherche plutôt à vraiment réintroduire cette technique parce que ça fait partie des techniques qui vont permettre à l'arbre de quand même bien résister à ces changements de température qui sont fortes parfois. On fait même pâturer certains arbres quand on manque de fourrage. On a le frêne qui est vraiment destiné aux animaux, aux chèvres, aux gros bovins, où on peut donner des feuilles pour nourrir les arbres quand on n'a plus de fourrage. Ça arrive dans certaines régions. Il y a vraiment beaucoup d'utilisations autres que le bois énergie. On a le bois en construction, on a le bois d'ébénisterie, on a l'aspect alimentaire, et puis tout ce qui peut être mellifère autour des abeilles, et puis la production de miel, et puis aussi tout ce qui est biodiversité et accueil et habitat de la faune qui cherche refuge dans les arbres en fait.
Moi, je trouve qu'il est assez complémentaire de l'activité qui existait sur le lieu. Déjà, y a une passation de génération, donc c'est déjà quelque chose. Et puis ensuite, c'est de la diversification. C'est-à-dire que nous, on a besoin de très peu d'espace avec les techniques de maraîchage qu'on utilise. 0,7 hectares sur les 35 qu'il y a vraiment autour de la ferme, c'est pas énorme. Pour faire vivre a priori deux personnes, donc c'est quand même intéressant. Et donc nous, on va utiliser notamment le fumier qui est produit par l'élevage. On va utiliser de la paille, on va utiliser de la plaquette de bois qui est produite avec l'agroforesterie dont parlait Dominique. On mécanise pas du tout, mais du coup, c'est vrai que parfois, pour faire venir la matière organique, nous, dans le champ, le fait d'avoir le tracteur de l'exploitation laitière, ça nous aide. Aujourd'hui, je crois que les termes d'agroforesterie, de replanter des arbres, je crois que ça parle beaucoup. Ça devient des sujets un peu à la mode parce que les gens prennent conscience avec le changement climatique aussi que c'est une vraie résilience que d'avoir des arbres et de planter des arbres. Et donc c'est vrai que le fait que ça a été impulsé il y a plus de 30 ans ici, je crois que Dominique, on peut dire que tu es une des références quand même. En fait, il y a à la fois une expertise et à la fois vraiment déjà un recul. Et même au niveau paysager, en fait, on peut voir déjà des haies qui ont été plantées il y a 30 ans et des haies qui ont été plantées l'année dernière, parce que nous, on participe aussi au chantier de plantation de haies, etc. Donc on peut aussi en parler. Et que les personnes sont souvent curieuses de voir des arbres dans les champs et de se rendre compte aussi de l'importance que ça peut avoir, quoi.
Quand on lit toutes les études qui sont faites autour de l'arbre, on peut puiser des choses hyper intéressantes. Et par exemple, dans un désert, quand vous avez un groupe d'arbres, on a découvert que ces composants volatiles qui sortaient de ce groupe d'arbres, qui était assez important, l'eau a besoin de composants volatiles pour s'agglomérer, pour se construire. Et il tombe plus facilement de l'eau autour d'un groupe d'arbres ou d'une forêt tropicale que dans un désert.
Moi, je sens que la plupart des personnes qui passent ici sont plutôt convaincues de l'intérêt de l'arbre dans nos écosystèmes. Les principales personnes qui vont l'être un peu moins, ce serait à une échelle urbaine des services d'urbanisme qui ne voient pas trop comment elles pourraient réintroduire les arbres dans les villes, parce que c'est des complications assez importantes. Et après, à l'échelle rurale, des agriculteurs qui vont plutôt voir la perte de surface que ça représenterait, le travail d'implantation et d'entretien que ça représenterait, même si... concrètement, aujourd'hui, avec le retour d'expérience qu'on a, on sait qu'économiquement, à long terme, on peut s'y retrouver. Mais c'est vrai que sur une vision plus court-termiste, il y a une petite perte de surface, il y a une perte de rendement localement au niveau des cultures qui vont être proches des haies. La biodiversité, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Il y en a qui vont plutôt, au contraire, chercher à la limiter parce que ça peut faire des ravages parfois dans les cultures, etc. Donc après, c'est des modes de pensée qui peuvent être différents à cet endroit-là. Les agriculteurs dont je vous parle, ils vont être aussi parfois pilotés par des systèmes de subventionnement qui vont être en place. Donc si demain, la plantation de haies est subventionnée, finalement, ils vont peut-être s'y retrouver financièrement à court terme. Donc ça va peut-être les motiver.
À la ferme de Peton, la plantation a lieu tous les ans ou tous les deux ans, entre le 1er décembre et le 31 mars, sans compter l'entretien à faire tout au long de l'année. Cette plantation peut se faire avec des enfants, des jeunes en chantier d'insertion ou parfois même avec des fondations. Et on passe d'une ferme à l'autre avec tout de suite le quatrième épisode de notre feuilleton à la ferme Arc-en-Ciel à Bazougé, une ferme biologique où est produit un gouda fermier à base de lait de vache, mais aussi différentes céréales paysannes pour la transformation en pain, sans compter l'élevage de cochons, la boutique sur place et le camping à la ferme, avec aussi désormais une école maternelle pour des apprentissages dans la nature. Après un premier volet sur la fabrication de pain hier, et bien deuxième volet aujourd'hui au cœur du moulin et du four, pour suivre la transformation de A à Z avec comme guide Angélique Changeon qui travaille à la ferme depuis un an.
En fait, toute cette partie-là, c'est la partie boulangerie. Et le son, en fait, le moulin, lui, il a donc sa boule de bois qui tourne là.
Donc là, en fait, c'est un moulin dans lequel on va déposer le grain, là par exemple, et je vais finir le blé pour ensuite passer à l'épeautre. Et la meule écrase donc le grain. Ça rentre ensuite ici dans un tamis, et le tamis, il tourne. Et va sortir du tamis la farine, qui est beaucoup plus fine, et le son, lui, il va rentrer dans le tuyau qui est là, pop, 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 et il arrive ici. Donc ça, c'est le son qu'on va donner au cochon. Et la farine, elle est ici, voilà. Là, c'est de la farine de blé en T80, qui va être transformée demain au fournil.
Ça prend du temps, en fait. Parce que là, par exemple, pour avoir... 30 kg de farine, le moulin il a mis plus de 2 heures. C'est aussi ça en fait qui est lent, mais c'est parce que notre moulin il avance tout doucement pour avoir un grain qui est pas mal mené, quoi. Qui est vraiment, ça y va tout doux pour garder toujours, c'est la même histoire. Hein. Une vis sans fin qui tourne tout doucement pour que justement le grain il soit au maximum. Avec ses propriétés de base, en fait. Je comprends pourquoi il y a eu une version de la chanson Meunier Tudor. C'est là qu'on fait chauffer le four pour faire cuire notre pain. Et donc, il faut compter au moins 3 heures de chauffe. On peut mettre 100 kilos à la fois. Et alors, on a un four assez étonnant. C'est qu'on a un four qui a une sole tournante. En fait, ici, voilà, si on tourne la barre du four, c'est pas la barre du bateau, hein, mais des fois, on se prend un peu pour des capitaines quand même quand on... C'est un peu un goût d'aventure. Et en fait, ça tourne la sole, ce qui permet, en fait, ça facilite l'enfournement et le défournement de notre pain. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre au fond Parce qu'en fait, il n'y a pas de fond, puisque ça tourne, ça devient... voilà. Donc ça, c'est plutôt super, quoi. C'est un super outil ergonomique et de qualité, quoi. On le fait à l'enfournement, c'est-à-dire que je dépose les pains et je tourne et je dépose et je tourne et je dépose et je tourne et je dépose. Et je... En fait, c'est constant, quoi. Et même pour observer comment le pain réagit au four, eh ben, on tourne et on observe... Après, c'est sûr que du côté du foyer du feu, c'est là où c'est le plus chaud dans le four. C'est beaucoup travailler avec le vivant, de faire du pain au levain naturel et en plus cuit au feu de bois. Et ben, c'est de se dire, oula, je les réserve un peu plus au chaud, ceux-là, pour qu'ils profitent vraiment de la chaleur de fin de cuisson, par exemple. Dans le four, pour les pains de 1 kg, on est sur une cuisson d'une heure. Et pour les pains de 500 grammes, à peu près 45 minutes. Le pain paysan, c'est vrai que c'est un pain qui est bien cuit. Parce qu'en fait, c'est digeste, c'est plus digeste. Et c'est vrai qu'on a l'habitude souvent de manger du pain qui est un peu moins cuit et les consommateurs aiment le pain moins cuit. Et en fait, ça ne va pas forcément avec la pratique de créer du débat, ça.
Lorsqu'on réalise le fromage, le gouda, on n'utilise pas l'intégralité du lait. Enfin, on utilise l'intégralité du lait qui est produit sur la ferme, mais dans le lait, en réalité, on n'utilise qu'une partie qui est assez infime. Qui est à peu près une équivalence de 10% du lait. C'est-à-dire que sur un litre de lait, on va prendre le meilleur, toute la richesse du lait, et puis on va faire sortir de la production la partie plus liquide, qu'on appelle le petit lait. Et le petit lait, c'est assez difficile de le réutiliser dans une autre fabrication. Je crois que les Italiens font la ricotta avec le petit lait. Eux, ils ont trouvé une astuce pour le réutiliser. Et nous, à la ferme, eh ben, on a trouvé aussi une astuce. Une astuce à quatre pattes, à la queue en tire-bouchon et au groin. Et donc, ce sont nos petits cochons, là, les petits cochons de lait qui vont être élevés avec nos sous-produits de fabrication et donc avec notre petit lait issu de la fromagerie. Et pas seulement, parce qu'en fait, au moulin, quand la céréale arrive pour se transformer en farine, le moulin, il actionne par sa meule, il actionne le fait de séparer la partie farine de la partie son, qui est l'enveloppe du grain, en fait. Et donc, les cochons sont élevés au son et au petit lait de la ferme. Et avec le projet maraîchage, il y a aussi toutes les mauvaises herbes qui vont arriver jusqu'à eux. On a 11 porcelets, donc là, ils ont 3 mois et demi. Donc pour l'instant, ils naissent pas à la ferme. Peut-être qu'un jour, ça sera le cas. Donc nous, on les élève à la ferme. Et une fois qu'ils sont suffisamment prêts pour la consommation humaine, eh bien, on les transforme aussi en viande de porc, en charcuterie. Mais ça se fait pas sur place. Hein. C'est fait chez un prestataire charcutier. Et on vend nos colis de porc à la ferme. Rillettes, boudins, saucisses. Voilà, on fait des colis de 10 kilos. Et en fait, on utilise les stabules des vaches l'été parce que les vaches, elles sont à l'herbe. Donc, elles sont au champ. Et donc, ça nous fait de la place. C'est aussi ça qui a amené la réflexion d'avoir des cochons sur la ferme. C'est d'avoir cette place disponible l'été et en même temps d'avoir ces sous-produits, comme je disais, qui sont à valoriser, en fait. Ça plaît énormément aux enfants de l'école d'aller voir les cochons. Et même aux campeurs du camping, d'aller donner ces restes alimentaires aux cochons.
Et sachez que des ateliers pains devraient bientôt être proposés au grand public. L'activité camping à la ferme, un axe de développement, ce sera notre sujet de demain. Soyez patients. Puisque oui, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre écoute attentive. On se retrouve demain pour une dernière émission, l'Estival du local. Dernière évidemment pour cette semaine, hein, pas dernière pour tout l'été. Avec les mêmes horaires à 7h30 et à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.